franceinter.fr.
Et Donald Trump à la Maison Blanche. Aujourd'hui, c'est la réalité et nous entrons aujourd'hui dans sa tête à la une de la science.
Donald Trump affirme qu'il ne l'a pas fait, mais nous avons la vidéo qui prouve qu'il l'a fait. Du coup, on ne saura jamais la vérité. Il va falloir s'habituer les 4 prochaines années à ce que Donald Trump et les siens disent que ce que nous voyons de nos propres yeux n'est jamais arrivé.
Et c'est l'humoriste américain Trevor Noah qui ironise sur les mensonges incessants de Trump pour introduire cette une. Le mensonge est honté, mais aussi l'agressivité, la démesure. Quelques traits de la personnalité du président Trump qui amènent des psychologues américains à se poser la question de sa santé mentale. Certains, comme Kevin Dutton ou Robert Klitzman, franchissent le pas dans la presse et posent directement la question « Donald Trump est-il un psychopathe ?» Pour tenter de répondre à cette question, eh bien nous sommes au téléphone avec vous, Bruno Imbeck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychopédagogue à l'université de Mons en Belgique. Alors avant d'aborder le cas Trump, comment on définit la personnalité d'un psychopathe ?
Alors justement, on ne peut pas parler de personnalité psychopathe ou non psychopathe. Hein. C'est pas un diagnostic binaire, hein. C'est une tendance à manifester des comportements psychopathes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des échelles qui évaluent le niveau de psychopathie et qu'on n'a pas à un moment donné des diagnostics qui font un état statique. Donc je ne saurais pas vous dire Trump est un psychopathe, mais je peux sans doute, sur base de ce qu'on peut supposer comme réponse sur une échelle, envisager qu'il développe un certain nombre de comportements qui laissent évoquer un haut degré de psychopathie.
Et ben justement, alors quels sont les arguments concrets que vos confrères avancent pour dire que le président américain est malade ?
Alors, très clairement, il dysfonctionne. C'est-à-dire qu'il a un profil atypique. Et si vous évaluez, par exemple, son niveau d'impulsivité, d'agressivité, de machiavélisme, qui sont 3 échelles qui permettent de mesurer le niveau de psychopathie, vous allez sans doute avoir des scores relativement élevés. Ce qui explique qu'il va mentir, par exemple, mais pas comme un menteur pathologique qui croirait à ses propres mensonges, mais comme un menteur qui va utiliser le mensonge pour obtenir le pouvoir. Et qui va aussi utiliser le faible système, je vais dire, de critique de ses électeurs potentiels. Hein. C'est-à-dire qu'il peut très bien mentir, les gens savent qu'il mentent, mais disent qu'il y a quand même bien raison de mentir. Donc sur ces 3 niveaux d'échelle, il va faire des scores, à mon avis, canon. Il va aussi avoir un score particulièrement faible en empathie, ça le manifeste très souvent. Hein. Il peut casser les gens, il se met difficilement à leur place. Par contre, ce qui va éviter d'avoir un diagnostic sans nuance, c'est ce qu'on constate chez lui, c'est-à-dire un processus affiliatif qui fonctionne pas mal. Quand on voit les relations qu'il a avec ses propres enfants, même avec son père, même si tout n'est pas toujours très rose, mais on sent qu'il y a une affiliation qui est réussie, ce qui fait que si vous le comparez à des figures de psychopathes célèbres, genre Hannibal Lecter, ben vous allez avoir effectivement des mécanismes qui sont un peu différents.
Ah oui, vous n'allez pas être au dos de la cuillère quand même.
Oui, non, mais on parle en image, donc on n'est pas dans le profil du psychopathe, mais on est dans les tendance à la psychopathie, qui laisse plus interroger finalement le processus de pouvoir, parce que vous ne devenez pas psychopathe par hasard, hein, vous le devez si on vous donne par exemple un pouvoir absolu et que vous avez une tendance à la démesure. Le pouvoir absolu, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Et sans doute encore davantage si vous avez une tendance à la démesure. Donc c'est ça qui est relativement dangereux dans le cas de Trump, c'est qu'on a affaire à un profil qui démontre des traits qui laisse évoquer de la démesure, éventuellement une psychopathie, mais surtout, vous avez à un moment donné quelqu'un qui risque d'avoir un pouvoir qui le dépasse. On le voit aussi, même l'investiture, par exemple, eh bien, quand on voit la manière dont c'est mis en scène, si vous avez des tendances mégalomaniaques, vous allez développer beaucoup plus si on vous met dans cette posture-là.
Alors, justement, qu'est-ce que pourrait être le devenir d'un homme qui manifeste ses troubles et à qui on donne trop de pouvoir ?
Alors, ce qu'il faut espérer, et je pense quand même que ces garde-fous existent, et le mot garde-fou n'a jamais autant bien porté son nom, hein. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné des instruments de contrôle du processus démocratique. Les démocraties plus avancées, comme en principe le sont les États-Unis, mettent en place des procédures de contrôle qui vous donnent parfois l'illusion d'un pouvoir absolu, mais qui en réalité permettent de le mesurer, de le diminuer dans les faits. Donc vous prenez une décision, elle va de toute façon être évaluée par d'autres que vous à un moment ou l'autre. Ce qui explique que dans certaines fausses démocraties ou dictatures, là, on a des gens qui sont mis en position de développer leurs démesures et qui alors semblent réellement manifester des profils de psychopathes. Hein. On n'est pas psychopathe dans l'absolu. Les psychopathes d'un jour sont les héros du lendemain. Hein. En situation de guerre, ça devient des héros. Donc il faut toujours tenir compte du contexte quand on évalue un symptôme, notamment un symptôme psychiatrique de cet ordre.
Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un des auteurs dont on parlait tout à l'heure, là, Kevin Dutton, qui s'est amusé, grâce aux échelles, à comparer le niveau de psychopathie de personnalité historique. Et selon ses travaux, Donald Trump arrive devant Napoléon Bonaparte, devant Néron et devant Adolf Hitler. Et qu'est-ce qu'il faut penser de ce genre de classement réellement ?
Alors, ils n'ont pas beaucoup de sens sur le plan psychiatrique. Ce qu'on évalue essentiellement dans ce classement, c'est l'aptitude qu'a eu une personne ou la latitude qui lui a été donnée de développer son pouvoir de manière démesurée. Si vous donnez un chapeau de Napoléon à un fou, il va se prendre pour Napoléon, ce qui signifie qu'il va considérer qu'il a un pouvoir absolu. Et donc, c'est ce qui est inquiétant dans le cas de Trump, c'est la manière dont cette personne est arrivée au pouvoir, effectivement, en adoptant des attitudes machiavéliques, agressives, impulsive, l'absence de réflexion, et tout ça est validé par un processus démocratique. Si vous comparez avec quelqu'un comme Obama, c'est effectivement l'antithèse. C'est quelqu'un qui développe très peu d'impulsivité, qui est peu agressif, qui est peu machiavélique et qui a des manières d'être, je vais dire, qui suggèrent une forme d'équilibre. Il est probable que si vous mesurez le taux de testostérone de Trump et de Obama et leur niveau de cortisol, vous allez avoir effectivement des surprises. L'un développe plus de testostérone, moins de cortisol que l'autre. Et vous aurez à ce moment-là des mécanismes qui font que votre agressivité, par exemple, qui chez Trump est à fleur de peau, quand elle se couple au machiavélisme et à l'impulsivité, elle donne alors des résultats difficilement contrôlables et peu compatibles, à mon avis, avec l'exercice du pouvoir.
Ça veut dire quoi ? Vous êtes inquiet, Bruno Imbeck, de voir un tel personnage arriver à la tête de la plus grande puissance mondiale ?
Alors, je suis inquiet qu'il ait pu y arriver, ça c'est un premier point. Je ne suis pas nécessairement inquiet pour l'avenir, parce que je pense que les garde-fous démocratiques vont se mettre en place très rapidement, et que son niveau de prise de décision, qui lui semble illimité à lui pour le moment, parce qu'il est dans la démesure, dans la réalité des faits, va se heurter à des limites qui sont celles de l'exercice réaliste du pouvoir. C'est ce qu'Obama d'ailleurs suggère quand il exprime que Trump, pour le moment, ne se rend pas compte de l'étendue de la réalité à laquelle il va être confronté.
Une dernière question, Bruno Imbeck. Est-ce qu'il y a la moindre chance, selon vous, que tout ce qu'on ait dit depuis le début de la une soit faux, que Trump soit un personnage fin, intelligent, manipulateur et qu'il fasse semblant d'être le malade qu'on décrit, tout simplement ?
Alors, oui. Non pas qu'il soit intelligent, mais qu'il ait un type d'intelligence qui nous échappe. Ça, c'est toujours possible, parce que l'intelligence, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. Les modèles d'intelligence que l'on associe généralement à l'exercice de pouvoir, ils ne les manifestent visiblement pas. Le fait qu'effectivement, il ait développé des côtés arrogants, racistes, insupportables, populistes, nationalistes, agressifs, misogynes, indélicats, tout ce que vous voulez, souvent stupides et systématiquement maladroits, en fond, une personnalité humainement peu intéressante, mais ce sont pas des diagnostics psychiatriques, ce sont juste des manifestations de comportement qui sont sans doute liées à la manière dont une démocratie un peu malade peut fonctionner, comme non plus comme une démocratie, mais comme une hémocratie, c'est-à-dire fonctionnant uniquement sur les émotions et sur l'impulsivité de l'électeur.
Est-ce que vous savez s'il est suivi ou pas par des médecins ou même par une armée de psychologues qui sont là à faire attention à la moindre de ses tweets? Enfin bon, c'est pas le cas apparemment.
Alors je suis absolument convaincu qu'il ne l'est pas, pour la bonne et simple raison que pour être suivi par un psychiatre, vous devez soit éprouver vous-même de la souffrance, ce qui n'est absolument pas son cas, soit en provoquer chez d'autres, ce qui n'est pas encore son cas non plus et qui ne sera probablement pas, parce que les garde-fous démocratiques, je le répète, vont à mon avis s'activer.
Bon, eh ben écoutez, on va essayer d'être aussi optimiste que vous, Bruno Imbeck. Merci beaucoup en tout cas pour votre décryptage. Axel, bon week-end.
Bon week-end.
Et à lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un additif alimentaire couramment consommé qui pourrait être cancérigène, le dioxyde de titane, ce colorant plus connu sous le nom de E171 et que l'on retrouve dans des biscuits, des chewing-gums ou encore des dentifrices, est classé depuis 2006 comme cancérigène possible par le Centre international de recherche sur le cancer. Des chercheurs de l'INRA montrent aujourd'hui chez le rat qu'une consommation régulière de dioxyde de titane favorise l'émergence et le développement du cancer colorectal, un faisceau de preuves qui s'affine autour de cet additif très décrié par les associations, avec des résultats qui justifient de nouvelles études chez l'homme. L'énigme des cercles de fées namibiens en voie d'être résolue. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que les scientifiques s'affrontent pour expliquer l'origine des trous de végétation de quelques mètres qui parsèment les déserts de Namibie. Les uns défendant l'hypothèse de colonies d'insectes, les autres celles de plantes assoiffées. Des écologistes mathématiciens pourraient bien mettre tout le monde d'accord. Après de multiples observations, ils ont remarqué que ces cercles de fées dessinent des motifs à plusieurs échelles et selon leur modèle mathématique, les deux hypothèses sont complémentaires, termites et plantes, dessinant toutes deux des motifs, mais à des échelles différentes. L'hypothèse doit encore être vérifiée, mais cette solution convient évidemment à la plupart des chercheurs. Et puis, mâcher est bon pour la santé, c'est la surprenante conclusion d'une étude anglo-saxonne qui montre que la mastication nous protège en continu des infections buccales. Les chercheurs se sont rendus compte que les petites contusions causées par la mastication sur les gencives déclenchaient la production de cellules bien particulières, les lymphocytes TH17, une population de cellules nécessaires pour se protéger contre les infections. Si dans nos intestins la production de ces lymphocytes est activée par des bactéries, la mastication est donc un moyen simple de protéger notre bouche, qui est une des principales portes d'entrée pour les virus et les bactéries.